Léa Salamé, votre invitée ce matin, est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances.
Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour Léa Salamé.
C'est une première. Une banque va payer une amende record à l'État français pour éviter un procès pénal pour fraude fiscale. HSBC va donner 300 millions d'euros à vous, à Bercy. Taper au porte-monnaie, c'est le seul moyen pour forcer les banques à être vertueuses.
Écoutez, on a beaucoup évoqué les questions de fraude et d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale dans le cadre de la révélation faite par vos confrères du Monde la semaine dernière.
Et de France Inter.
Paradise Papers,
et Radio France était dedans.
Et de France Inter, bien évidemment. La France avait été, suite aux Panama Papers, le pays qui avait le plus poursuivi et le plus ouvert d'enquête suite aux révélations faites par ces lanceurs d'alerte. Nous, on se réjouit qu'il y ait pu avoir cet élément-là la semaine dernière à nouveau. On sera en première ligne et il est normal que lorsque des banques ont participé à organiser de manière totalement masquée de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, eh bien elles puissent être tenues pour responsables de ce qu'elles ont proposé à leurs clients. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'accord a été trouvé avec la banque HSBC.
Alors HSBC n'aura pas de procès, pas de poursuite pénale. En revanche, l'homme qui a révélé ce scandale massif d'évasion fiscale, l'informaticien Hervé Falciani, lui reste poursuivi par la justice suisse avec mandat d'arrêt international. Est-ce que c'est normal ?
Écoutez, on peut considérer qu'il y a une forme d'étrangeté à cette situation. Après, il ne m'appartient pas évidemment de commenter des affaires en cours, encore moins quand elles ont lieu dans un pays voisin.
Et vous pourriez dire qu'il faut mieux protéger les lanceurs d'alerte.
Mieux protéger les lanceurs d'alerte dans les pays, et donc ça relève de la législation nationale de chaque pays. En France, ils sont protégés. Il y a une protection des sources importante aussi, qui permet à des journalistes de faire leur travail. Mais à l'évidence, il est important que ceux qui n'ont pas respecté la loi, quel que soit leur statut, et que ce soit des banques, que ce soit des entreprises, elles soient mises devant leurs responsabilités.
Alors, puisque vous parlez des journalistes qui protègent leurs sources, un mot sur ce rapport confidentiel du ministère de la Culture qui préconise des solutions drastiques pour faire des économies dans l'audiovisuel public, suppression de France O, de France 4, un plan de départ non volontaire. France Télévisions et Radio France seront mises au régime sec dans le mandat d'Emmanuel Macron.
Écoutez, il ne m'appartient pas à nouveau de commenter une note interne d'un ministère qui n'est pas le mien. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si on s'interdit de réfléchir à des éléments nouveaux, quel que soit le sujet, dans des notes, si on dit à nos administrations, surtout on fait comme d'habitude, on ne change rien, on vous interdit d'imaginer des choses nouvelles, ben il se passera rien. C'est pas le mandat que nous ont donné les Français. Ils nous ont donné un mandat, celui de transformer le pays, que des notes puissent circuler, que des éléments de réflexion puissent être mis sur la table. C'est pour le moins ce qu'on attend, ce qu'attendent les Français de leur gouvernement. Par ailleurs, je crois que la ministre de la Culture a annoncé qu'elle porterait plainte.
Elle porte plainte contre X. Et Le Monde répond en disant que le gouvernement n'aime décidément pas quand les journalistes d'investigation font leur travail et dénonce une culture du secret.
Écoutez, il est toujours désagréable quand vous avez des notes de travail avec vos équipes et avec vos services de les voir circuler. J'imagine que quand vous avez des réunions au sein de votre rédaction avec des papiers circulent, vous seriez finalement peu enclin à les voir circuler. Ce sont des notes de travail. Il est normal de pouvoir travailler en toute confiance avec ses équipes et avec ses services. Moi, c'est mon cas.
Mais sur le fond, vous ne démentez pas le fait que la transformation du pays peut passer par une réforme drastique du service public de l'audiovisuel.
À nouveau, ce sont des éléments de travail et de réflexion.
Hier, Emmanuel Macron était en banlieue. Il a fait des annonces en faveur des quartiers, avec notamment le retour des emplois francs, c'est-à-dire les entreprises qui reçoivent des primes pour embaucher.
C'est pas le retour des emplois francs.
Ça a déjà existé.
Dans des conditions à ce point drastiques, avec des critères à ce point impossibles à remplir, qui n'étaient destinés qu'aux jeunes et pas aux populations qui vivent dans ces quartiers où vous avez des jeunes, certes, qui sont en situation de chômage, mais vous n'avez pas que des jeunes. Vous avez des gens qui sont en situation de chômage de longue durée, qui vivent dans ces quartiers, et puis avec des moyens qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc, vous nous dites que ce qu'a fait François Hollande dans le quinquennat précédent, où vous aviez une idée qui n'était pas mauvaise au départ, mais qui était dans sa réalisation, dans son exécution mal faite. Là, il y a des moyens très importants.
Alors,
qui sont consacrés.
Alors, en quoi là, c'est différent ? En quoi c'est pas un 48e plan Marshall pour les banlieues qui ne changera rien ?
Pour une raison simple, c'est qu'on a arrêté de faire de la politique de la ville une politique qui se construirait en silos. C'est une politique globale. la politique de la ville. C'est ce que fait Jean-Michel Blanquer pour l'éducation dans les quartiers d'éducation populaire en divisant par deux le nombre de gamins dans les classes, dans ces zones prioritaires en CP, puis bientôt en CE1. C'est les devoirs faits. C'est l'éducation, c'est en matière de sécurité, la part des 10 000 policiers qui seront consacrés dans le cadre de la police pour la sécurité du quotidien dans ces quartiers. C'est dans le cadre de ce que fait Agnès Buzyn pour l'accès aux soins avec le doublement des maisons de santé, l'augmentation de 30% de l'allocation parents isolés. Et c'est les emplois, c'est la totalité de ces fronts. À force de saucissonner les politiques publiques dans ces quartiers, on a fait du saupoudrage. Mmh. Et on a fait que vous avez un taux de pauvreté qui est 3 fois supérieur dans ces quartiers à la moyenne nationale, que vous avez 2 fois et demi plus de chômage.
Là, ça va changer.
Écoutez, la chose dans qui est certaine,
dans 2 ans, dans 3 ans, le taux de chômage
temps,
va réduire.
La chose qui est certaine, c'est que le en même temps présentiel, s'il doit s'appliquer à un endroit, s'il faut concentrer les capitaux publics à un endroit, c'est là où il y a moins de capitaux privés. Et où il faut assumer de dire qu'il faut faire plus en termes de pouvoir public, en termes d'action de l'État, dans ces quartiers.
En termes de discrimination positive.
Je n'ai aucun état d'âme à le dire. L'égalité dans ces quartiers, à l'école en particulier, parce que moi je dois tout à l'école. Et bien dans ces quartiers, les gamins, je suis désolé de le dire, l'école a failli, la République a raté sa mission. Et c'est cela
donc on la corrige en faisant des quotas.
On s'attaque à la racine du mal, à la racine des inégalités, plutôt que de réparer en permanence les choses qui ne vont pas. On fait de la prévention. C'est plus un État qui dépense, c'est un État qui investit. Et je crois qu'on en verra les fruits. Oui, ça prendra du temps, Léa Salamé. Mais parce que ça fait 30 ans que dans ces quartiers, on s'y prend à l'envers.
Benjamin Griveaux, on a appris hier que 100 adhérents d'En Marche ont démissionné. Ils dénoncent un manque de démocratie interne, un parti d'élite déconnecté, un retour de la vieille politique avec le culte de la personnalité d'Emmanuel Macron. 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, la fête est finie, c'est le début de la gueule de bois.
Écoutez, nous comptons, je crois, aujourd'hui 386 000 adhérents. Nous avons gagné 166 000 adhérents depuis l'élection présidentielle. On nous a dit, en gros, les gens viendront pour l'élection présidentielle, puis après, ils déserteront. Moi, j'ai mené une campagne législative à Paris avec des gens qui n'étaient pas engagés dans la campagne présidentielle. Donc,
qu'il
y ait une centaine
malaise.
De personnes qui, de manière anonyme,
Il y en a quelques-uns qui ont parlé,
oui, il y a quelques têtes d'affiche. Bon, qui de manière anonyme ne se retrouvent pas dans des statuts qui ont été votés, je le rappelle, cet été, par les adhérents du mouvement. Dans un mouvement qui, dans son conseil national, a tiré au sort 25% des adhérents. Il n'y a pas un conseil national d'aucun parti politique qui n'est pas constitué, exclusivement d'élus.
J'entends bien, vous marginalisez les choses en disant c'est quelques...
Je ne les marginalise pas, je rappelle des éléments. J'entends. 100 sur 386
000. Pas de remise en cause, pas de malaise. Tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a jamais de doute à La République En Marche.
Alors, vous savez, ça, le doute, je crois, est simple, pas qu'à La République En Marche. Quand vous êtes dans l'action politique, il est préférable de douter et de ne pas avancer pétri de certitude. C'est le meilleur moyen de ne pas comprendre le pays. Mais ma certitude, c'est que ce week-end, nous allons avoir notre premier congrès et que les missions de La République En Marche vont être d'animer le débat, de faire revenir les intellectuels dans les partis et dans un mouvement politique qu'ils ont déserté
et d'élire son patron,
20 ans.
Et d'élire son patron choisi par le prince.
Et d'élire avec un conseil national, il y a 4 listes. Bref, je ne ferai pas ce procès-là. Il n'y a pas de sujet de fonctionnement démocratique dans ce mouvement.
Merci Benjamin Griveaux, futur porte-parole du gouvernement.
Écoutez, article 8 de la Constitution, la dernière fois que j'ai vérifié, c'est sur proposition du Premier ministre, le Président de la République qui en décide. Donc Merci. Je crains que la Constitution n'ait pas changé depuis la dernière fois que j'en ai
Benjamin
pris
Griveaux qui n'est donc pas candidat Merci. Ce matin. Merci, belle journée.